Condorcet, Vie de Monsieur Turgot, 1796. Fichier numéro 1. Avertissement. Les mémoires sur la vie de Monsieur Turgot, qui ont paru en 1783, auraient dû sans doute m'empêcher d'écrire. Mais, quelque bien fait que soient ces mémoires, et malgré la connaissance approfondie des principes de l'économie politique et des opérations exécutées ou projetées par M. Turgot, qui rend cet ouvrage aussi intéressant qu'instructif, j'ai espéré qu'on me pardonnerait d'avoir envisagé le même objet sous un point de vue différent et d'avoir cherché à faire connaître dans M. Turgot le philosophe plutôt que l'homme d'État. Si j'avais songé aux intérêts de mon amour-propre, j'aurais gardé le silence. Je sentais combien il y avait de danger à paraître après un ouvrage qui avait obtenu un succès si général et si mérité. Et je ne pouvais me dissimuler la supériorité que l'auteur avait sur moi. Mais je n'aurais pu me pardonner de n'avoir pas rendu ce faible hommage à la mémoire d'un grand homme que j'ai tendrement chéri, dont l'amitié m'a été si douce et si utile, et dont le souvenir sera toujours pour moi un de ces sentiments délicieux et tristes qui deviennent une partie de notre existence et ont le pouvoir de nous la rendre plus chère. C'est à ce sentiment que j'ai cédé, et j'ose espérer qu'en me donnant quelque droit à l'indulgence de ceux qui pourront jeter les yeux sur cet ouvrage, il obtiendra grâce pour ses défauts. Vie de Monsieur Turgot. Dans cette foule de ministres qui tiennent pendant quelques instants entre leurs mains le destin des peuples, il en est bien peu qui soient dignes de fixer les regards de la postérité. S'ils n'ont eu que les principes ou les préjugés de leur siècle, qu'importe le nom de l'homme qui a fait ce que mille autres à sa place eussent fait comme lui. L'histoire générale renferme le récit des événements auxquels ils ont eu part. On y voit que tel ministre, tiré de la foule des ambitieux, a plus songé à obtenir les places qu'à s'en rendre digne. Qu'il s'est plus occupé de les conserver longtemps que de les bien remplir. On voit le mal qu'ils ont fait par ambition, celui qu'ils ont souffert par ignorance ou par faiblesse, quelquefois le bien qu'ils ont tenté sans succès, plus rarement celui qu'ils ont pu faire. L'histoire de leur pensée, celle même de leur vertu, se trouve dans le tableau des opinions et des préjugés de leurs contemporains. Mais si dans ce nombre, il se rencontre un homme à qui la nature ait donné une raison supérieure, avec des principes ou des vertus qui n'étaient qu'à lui, et dont le génie ait devancé son siècle assez pour en être méconnu, alors l'histoire d'un tel homme peut intéresser tous les âges et toutes les nations. Son exemple peut être longtemps utile. Il peut donner à des vérités importantes cette autorité nécessaire quelquefois à la raison même. Tel fut le ministre dont j'entreprends d'écrire la vie. Si l'honneur d'avoir été son ami est le seul titre à l'estime publique dont j'ose me flatter, si ce sentiment a été le plus doux peut-être que j'ai jamais éprouvé, l'amitié ne me fera point altérer la vérité. Le même sentiment qui anima toute sa vie, l'amour de l'humanité, m'a seul inspiré le désir d'en tracer le tableau. Et, s'il était possible que je fusse tenté d'en altérer quelques traits, je me souviendrais alors d'avoir appris de lui que le plus grand bien qu'on puisse faire aux hommes est de leur dire la vérité, sans déguisement comme sans exagération, sans emportement comme sans faiblesse. sa vie, n'occupera qu'une partie de cet ouvrage. Après avoir dit le bien qu'il a fait et celui qu'il préparait, après avoir montré ses vertus, ses talents et son courage dans le petit nombre des événements d'une vie toujours constamment dirigée par des principes invariables et simples qu'il s'était formés, après avoir parlé de quelques ouvrages qui, dictés par une raison supérieure, renferment des vues aussi vastes que saines et bien combinées, et qui cependant sont presque tous au-dessous de lui, il me restera encore à tracer l'histoire de ses opinions, de ses idées, de son caractère. Je sens combien je dois rester au-dessous d'un tel sujet. Mais ceux qui me liront jugeront par ce que je dirai combien il était difficile de le bien remplir. Les hommes éclairés et vertueux verront tout ce qu'ils ont perdu en lui, et ils me sauront gré de mes efforts pour le leur faire mieux connaître. Anne Robert Jacques Turgot naquit à Paris le 10 mai 1727. Sa famille est une des plus anciennes de la Normandie. Son nom signifie le dieu Thor dans la langue de ses conquérants du Nord qui ravagèrent nos provinces pendant la décadence de la race de Charlemagne. L'hôpital de Condé-sur-Noireau fut fondé en 1281 par un de ses ancêtres, son trisaïeul, un des présidents de la noblesse de Normandie aux États de 1614, s'opposa avec courage à la concession qu'un gouvernement faible, plus occupé de flatter l'avidité des grands que de défendre les droits des citoyens, venait de faire au comte de Soissons des terres vaines et vagues de la province. Le père de M. Turgot fut longtemps prévôt des marchands. Et tandis que le vulgaire admirait la somptuosité élégante des fêtes qu'il ordonnait, le goût pur et noble des monuments qu'il fit élever, tribut qu'il payait, malgré lui peut-être, aux idées de son temps, tandis que les citoyens respectaient l'économie et l'ordre de son administration, l'intégrité et le désintéressement de sa conduite, un petit nombre de sages applaudissaient à des travaux utiles, dirigés par de vraies connaissances, à des soins pour la santé, pour les intérêts du pauvre, qu'il était alors trop commun d'oublier. On se rappellera longtemps ce jour où le peuple étonné le vit se jeter, seul, entre deux troupes de gardes françaises et suisses, prêtes à se charger. Saisir le bras de l'un d'eux, déjà levé pour frapper, et forcer des soldats furieux à reconnaître une autorité paisible et désarmée. Un trait de l'enfance de M. Turgot annonça son caractère. La petite pension dont ses parents lui laissaient la disposition au collège disparaissait aussitôt qu'il l'avait reçue, sans qu'on pût deviner quel en était l'emploi. On voulut le savoir et on découvrit qu'il la distribuait à des pauvres écoliers externes pour acheter des livres. La bonté, la générosité même, ne sont pas des sentiments rares dans l'enfance. Mais que ces sentiments soient dirigés avec cette sagesse, qu'ils soient soumis à des vues d'une utilité réelle et durable, voilà ce qui semble présager véritablement un homme extraordinaire, dont tous les sentiments devaient être des vertus, parce qu'il serait toujours conduit par la raison. Les parents de M. Turgot le destinaient à l'état ecclésiastique. Il était le dernier de trois frères. L'aîné devait se consacrer à la magistrature, devenu depuis quelques générations l'état de sa famille, et le second embrassait la profession des armes. C'était alors un usage presque général de prononcer dès le berceau sur le sort de ses enfants, d'après les convenances de la famille, ou les conséquences qu'on tirait de leurs inclinations naissantes. Ces hommes, placés au hasard dans des professions pour lesquelles ils n'étaient pas nés, devenaient, pour les familles et pour l'État, un fardeau inutile et souvent funeste. Heureusement, cet usage ne subsiste plus, et c'est un des bienfaits de cette philosophie dont on dit encore tant de mal par habitude, en jouissant de tout le bien qu'elle a fait. Le goût de M. Turgot pour l'étude, la modestie et la simplicité de ses manières, son caractère réfléchi, une sorte de timidité qui l'éloignait de la dissipation, tout semblait le rendre propre à l'état ecclésiastique. Et il paraissait qu'il lui aurait coûté peu de sacrifices pour se livrer à l'espérance de la fortune brillante que ses talents réunis à sa naissance lui auraient assurée. Mais M. Turgot eut à peine atteint l'âge où l'on commence à réfléchir qu'il prit à la fois la résolution de sacrifier ses avantages à sa liberté et à sa conscience, et celle de suivre cependant les études ecclésiastiques et de ne déclarer sa répugnance à ses parents qu'à l'instant d'un engagement irrévocable. Cet état n'imposait à M. Turgot aucun devoir de conduite qui pût l'effrayer, mais il sentait combien tout engagement pour la vie est imprudent. Quelque frivole que paraisse l'objet d'un serment, il ne croyait pas qu'il pût être permis de s'en jouer, ni qu'on puisse, en s'avilir soi-même, faire des actions qui avilissent, dans l'opinion commune, la profession que l'on a embrassée. Il voyait dans l'état ecclésiastique l'engagement plus imprudent encore d'avoir toujours les mêmes opinions publiques, de prêcher ce qu'on cessera peut-être bientôt de croire, d'enseigner aux autres comme des vérités ce qu'on regarde comme des erreurs, et de se mettre dans la nécessité, si jamais on adopte des sentiments différents de ceux de l'Église, ou de mentir à chaque instant de sa vie, ou de renoncer à beaucoup d'avantages, et peut-être de s'exposer à beaucoup de dangers. Et qui peut se répondre alors d'avoir le courage de remplir ce devoir? Pourquoi s'exposer au malheur d'être réduit à choisir entre sa sûreté et sa conscience? S'il croyait à la religion, était-il sûr d'y croire toujours? Pouvait-il se répondre d'en adopter toujours les dogmes? Et dès lors, lui était-il permis de prendre l'engagement de les professer toute sa vie? M. Turgot fit sa naissance et fut prieur de Sorbonne, espèce de dignité élective que les docteurs de la maison confèrent ordinairement à celui des bacheliers dont la famille a le plus d'éclat ou de crédit. Il était obligé par cette place de prononcer deux discours latins. Et ses ouvrages, faits en 1750 par un jeune homme de 23 ans, sont un monument vraiment singulier, moins encore par l'étendue des connaissances qu'il suppose que par une philosophie et des vues propres à l'auteur. On y trouve, pour ainsi dire, son esprit tout entier. Et il semble que la méditation et le travail n'ont fait depuis que le développer et le fortifier. Le premier de ces discours a pour objet l'utilité que le genre humain a retirée de la religion chrétienne. La conservation de la langue latine et d'une partie des ouvrages des anciens, l'étude de la scolastique, qui du moins préservera d'une stupidité absolue les états des barbares destructeurs de l'Empire romain, et qui produisit dans la logique comme dans la morale et dans une partie de la métaphysique une subtilité, une précision d'idées dont l'habitude inconnue aux anciens a contribué plus qu'on ne croit au progrès de la bonne philosophie, l'établissement d'une morale plus universelle, plus propre à rapprocher les hommes de tous les pays, fondée sur une fraternité générale entre tous les individus de l'espèce humaine, tandis que la morale païenne semblait tendre à les isoler, à ne rapprocher que les membres d'une même cité, et surtout ne s'occupait que de former des citoyens ou des philosophes au lieu de former des hommes. La destruction de l'esclavage domestique et de celui de la glèbe, qui est peut-être autant l'ouvrage des maximes du christianisme que de la politique des souverains intéressés à créer un peuple pour le faire servir à l'abaissement des grands. Cette patience, cette soumission que le christianisme inspire et qui, détruisant l'esprit inquiet et turbulent des peuples anciens, rendit les États chrétiens moins sujets aux orages, apprit à respecter les puissances établies et à ne point sacrifier à l'amour, même légitime, de l'indépendance, la paix, le repos et la sûreté de ses frères. Tels furent les principaux bienfaits du christianisme. Ce n'est pas que M. Turgot se dissimula ni les abus affreux du pouvoir ecclésiastique qui avait changé la race humaine en vil troupeau tremblant sous la verge d'un légat ou d'un pénitencier, ni les querelles sanglantes du sacerdoce et de l'empire, ni les funestes maximes du clergé armant les rois contre leurs sujets, là soulevant les peuples contre les rois et agissant au gré de son intérêt, tantôt le poignard du fanatisme et tantôt la hache des bourreaux. Le sang de plusieurs millions d'hommes massacrés au nom de Dieu fume encore autour de nous. Partout, la terre qui nous porte couvre les ossements des victimes d'une intolérance barbare. Une âme douce et sensible pouvait-elle n'avoir pas été révoltée de ces horribles tableaux? Une âme pure et noble pouvait-elle ne pas être soulevée en voyant, dans ces mêmes siècles, l'esprit humain dégradé par de nombreuses superstitions, la morale corrompue, tous les principes des devoirs méconnus ou violés, et l'hypocrisie faisant avec audace de l'art de tromper les hommes et de les abrutir, le seul moyen de les dominer et de les conduire. Car tous ces attentats, érigés en devoir sacré aux yeux des ignorants, étaient présentés aux politiques comme des crimes nécessaires au repos des nations ou à l'ambition de leurs souverains. Monsieur Turgot était, dès lors, trop éclairé pour ne voir que des abus dans ces conséquences nécessaires de toute religion qui, chargée de dogmes spéculatifs, fait dépendre le salut des hommes de leurs croyances, regarde le libre usage de la raison comme une audace coupable et fait de ses prêtres les précepteurs des peuples et les juges de la morale. Il n'ignorait pas que, si les gouvernements de l'Europe pouvaient cesser d'être éclairés, s'ils pouvaient oublier quelques instants de veiller sur les entreprises du clergé, si tous les hommes qui ont reçu de l'éducation, qui ont des lumières, qui peuvent prétendre aux places, tous ceux, en un mot, dont l'opinion gouverne réellement le monde, pouvaient cesser d'être réunis dans un esprit de tolérance et de raison, bientôt, les mêmes causes reproduiraient les mêmes effets. Mais M. Turgot croyait cette révolution impossible. Il voyait que tous les maux par lesquels le genre humain avait été éprouvé l'avaient conduit à une époque où le retour à la barbarie ne pouvait plus être à craindre, que, par une suite nécessaire du progrès toujours croissant des Lumières, l'influence, malheureusement encore si funeste, de l'esprit de superstition et d'intolérance, s'anéantirait de jour en jour, et qu'enfin, le mépris public achèverait dans moins d'un siècle l'ouvrage que la raison avait si heureusement commencé. Ce bonheur dont nos neveux ont l'espérance et dont nous goûtons déjà quelques fruits a sans doute coûté bien cher à nos ancêtres. Mais l'Asie n'a-t-elle pas souffert presque autant de la barbarie de ses conquérants que l'Europe de la cruauté de ses prêtres? Cependant, ces maux ont été une pure perte. Les révolutions ont succédé aux révolutions, la tyrannie à la tyrannie, et sans les lumières de l'Europe, le genre humain aurait été condamné à une éternelle ignorance et à des désastres perpétuels. Le second discours a pour objet le tableau des progrès de l'esprit humain. L'auteur les suit depuis les plus anciens peuples asiatiques, qui sont pour nous les créateurs des sciences, jusqu'à nos jours, au milieu des révolutions des empires et des opinions. Il expose comment la perfection des beaux-arts est limitée par la nature même, tandis que celle des sciences est sans borne. Il fait voir comment les plus utiles inventions dans les arts mécaniques ont pu naître dans les siècles d'ignorance, parce que ces inventions ont pour objet des arts cultivés nécessairement dans tous les temps, et que l'observation et l'expérience peuvent en ce genre donner aux hommes de génie les connaissances nécessaires pour s'élever à ces inventions. Il montre que les sciences durent leur premier progrès à la découverte de l'écriture, que celle de l'écriture alphabétique leur fit faire un nouveau pas, et à l'imprimerie un plus grand encore, puisque cet art les a répandus sur un grand espace et garantit leur durée. Enfin, il prouve que les progrès auxquels on ne peut assigner aucun terme sont une suite de perfectibilité de l'esprit humain, perfectibilité qu'il croyait indéfinie. Cette opinion, qu'il n'a jamais abandonnée depuis, a été un des principaux principes de sa philosophie. Le temps où il fallait déclarer enfin qu'il ne serait point ecclésiastique était arrivé. Il annonça cette résolution à son père dans une lettre motivée, et il obtint son consentement. L'état de maître des requêtes était celui qu'il avait choisi. Passionné par tous les genres de connaissances, comme pour la littérature et la poésie, il avait étudié les éléments de toutes les sciences, en avait approfondi plusieurs, et formé la liste d'un grand nombre d'ouvrages qu'il voulait exécuter. Des poèmes, des tragédies, des romans philosophiques, surtout de vastes traités sur la physique, sur l'histoire, la géographie, la politique, la morale, la métaphysique et les langues, entraient dans cette liste singulière. Il n'existe que le plan de quelques-uns de ces ouvrages, et ces plans supposent des connaissances aussi vastes que variées, des vues neuves et profondes. Cette passion de l'étude aurait pu conduire un homme né même avec moins de génie que lui, mais avec un caractère aussi supérieur à l'ambition et une âme aussi éloignée de toute vanité, à ne désirer d'autre état que celui d'homme de lettres. Monsieur Turgot pensait autrement. L'état où il pouvait être le plus utile, sans jamais être obligé de sacrifier ni la vérité ni la justice, était celui qu'il se croyait obligé d'embrasser. Il préféra donc une charge de maître des requêtes aux autres places de la robe. Ministre du pouvoir exécutif dans un pays où l'activité de ce pouvoir s'étend sur tout, agent du gouvernement dans les opérations sur les finances ou le commerce qui influent le plus sur la prospérité publique, appelé plus sûrement que les membres d'aucun ordre aux premières places de l'administration, il est rare qu'un maître des requêtes n'ait une grande influence ou sur une province ou sur l'État entier et que dans le cours de sa vie, ses lumières ou ses préjugés, ses vertus ou ses vices n'aient fait beaucoup de bien ou beaucoup de mal. Monsieur Turgot s'était préparé à suivre cette nouvelle carrière. En étudiant avec plus de soin les parties des sciences qui avaient plus de rapport aux fonctions et aux devoirs des maîtres des requêtes. Celles des sciences physiques qui s'appliquent à l'agriculture, aux manufactures, à la connaissance des objets de commerce, à la construction des travaux publics. Les parties des mathématiques nécessaires pour savoir dans quel cas on peut faire un usage utile de ces sciences. Et pour n'être pas embarrassé des calculs que les questions de physique, de commerce, de politique rendent souvent nécessaires. Il avait approfondi les principes de la législation, de la politique, de l'administration et ceux du commerce. Plusieurs de ses lettres écrites alors montrent non seulement l'étendue de ses lumières, mais prouvent, si on les compare aux ouvrages alors connus, qu'il en devait à lui-même la plus grande partie. Deux événements de sa vie à cette époque paraissent seuls devoir nous arrêter. Il avait été chargé d'examiner l'affaire d'un employé des fermes poursuivi pour un crime par la justice et qui avait eu le moyen de s'y soustraire. Monsieur Turgot, persuadé que cet homme était coupable, et que le devoir qu'il avait à remplir serait un devoir de rigueur, avait différé de s'en occuper. Cependant, après de longs délais, il commença l'affaire, et il trouva que l'accusé était innocent. Alors il se crut obligé de réparer le tort que ce délai avait pu lui causer, et, sachant quels étaient les appointements dont il avait été privé pendant la durée du procès, il les lui remit, exactement, et l'obligea de les recevoir en ayant soin de ne mettre dans cette action que de la justice et non de la générosité. Forcé de juger de ces causes où la lettre de la loi semblait contraire au droit naturel dont il reconnaissait la supériorité sur toutes les lois, il crut devoir le prendre pour guide dans son opinion. Aucune des conclusions de son rapport ne fut admise. La pluralité préféra une loi positive qui paraissait claire à un droit plus sacré, mais dont les hommes qui ont peu réfléchi peuvent regarder les principes comme trop vagues ou les décisions comme incertaines. Quelques jours après, les parties transigèrent volontairement d'après ces mêmes conclusions et rendirent hommage à cette justice d'un ordre supérieur. Pendant que M. Turgot était maître des requêtes, il y eut une chambre royale, et il y siégea. S'il eût cru que sa conscience l'obligeait de refuser, il eût obéi à sa conscience. Mais pouvait-il même ignorer que cette résolution ne demandait pas un grand courage? En effet, il ne s'agissait pas de véritables troubles dans l'État, mais de cabales qui partageaient la cour et de cette querelle des billets de confession dont l'importance devait être momentanée et le ridicule éternel. Il savait que le parti, alors accablé, pouvait, sous un autre ministère, devenir le parti dominant. En suivant la route ordinaire, à peine était-il aperçu. En s'en écartant, il s'assurait l'appui d'un parti et la faveur populaire. C'était une de ces circonstances plus communes qu'on imagine, où la conduite la plus dangereuse est en même temps la plus sûre, et où l'on suit ses véritables intérêts en ayant l'air de se sacrifier à son devoir. Mais cette ambition raffinée était aussi éloignée de lui qu'une complaisance servile. Et il accepta comme il eût refusé, en préférant la conduite que sa raison regardait comme la plus juste. Il pensait que le roi droit à ses sujets des tribunaux de justice composés d'hommes ayant les qualités que les lois exigent pour les remplir. formée du nombre de juges nécessaires suivant les mêmes lois. Instituée non pour une cause particulière, mais pour un district marqué, ou pour un genre général de choses. Indépendants, enfin, dans le cours de leurs fonctions, de toute révocation arbitraire. Ils pensaient que tout tribunal ainsi constitué peut être légitime, que la difficulté de remplacer des anciens juges quand ils ont quitté leurs fonctions, non parce qu'on a voulu les forcer à juger contre les lois, mais parce qu'on a blessé leurs opinions ou attaqué des privilèges étrangers à leur devoir principal, ne pouvait que donner des armes à l'esprit d'anarchie et introduire entre les ministres du souverain et ses officiers de justice une espèce de gageur à qui sacrifierait avec plus d'opiniâtreté l'intérêt du peuple à ses intérêts personnels. L'opinion populaire s'était déclarée contre la Chambre royale. Mais ce motif n'arrêta point M. Turgot. La certitude d'avoir bien fait, le témoignage de quelques hommes éclairés lui suffisait. Et il a toujours pensé que, s'il ne faut point blesser l'opinion, même injuste, dans les choses indifférentes, c'est au contraire un véritable devoir de la braver lorsqu'elle est à la fois injuste et nuisible. C'est à cette même époque de sa vie que M. Turgot donna quelques articles de l'encyclopédie. Il était lié avec les éditeurs de cet ouvrage. D'ailleurs, il était persuadé que le seul moyen sûr et vraiment efficace de procurer aux hommes un bonheur durable, c'est de détruire leurs préjugés et de leur faire connaître et adopter les vérités qui doivent diriger leurs opinions et leurs conduites. Il pensait que l'on parviendra infailliblement à ce but en examinant toutes les questions et en discutant paisiblement toutes les opinions, et qu'il est important que cette discussion soit publique, que tous les hommes soient appelés à cet examen, afin que la connaissance de la vérité ne reste pas renfermée entre un petit nombre de personnes, mais qu'elle soit assez répandue pour n'être point ignorée de ceux qui, par l'éducation qu'ils ont reçue, sont destinés à occuper toutes les places. L'encyclopédie lui parut un ouvrage très propre à remplir ses vues. Il devait contenir des notions élémentaires et justes sur tous les objets de nos connaissances, renfermer les vérités les plus certaines, les plus utiles et les plus importantes des différentes sciences. On y devait trouver la discussion de toutes les questions qui intéressent les savants ou les hommes, et les opinions les plus générales ou les plus célèbres, avec l'histoire de leur origine, de leur progrès, et même les preuves, bonnes ou mauvaises, sur lesquelles elles avaient été appuyées. Aussi s'intéressa-t-il vivement à la perfection de cet ouvrage. Il voulut même y contribuer, parce qu'il voyait avec peine l'espèce d'abandon auxquelles plusieurs parties importantes avaient été livrées. Et il donna les articles « Étymologie »,« Expansibilité »,« Existence »,« Foire » et « Fondation ». Il montre, dans le premier article, que la science des étymologies, devenue presque ridicule par l'abus qu'on en a fait, peut, si on l'a servi aux règles d'une saine critique, cessait d'être arbitraire et incertaine, qu'alors elle sert à nous éclairer sur les révolutions du langage, révolutions qui sont liées avec l'histoire des opinions et celle des progrès de l'esprit humain. Et il fait voir que l'érudition peut n'être pas une étude frivole, même aux yeux d'un philosophe qui n'aime que la vérité, et parmi les vérités, celles qui sont utiles. Dans l'article « Existence », il cherche par une analyse profonde comment nous en avons acquis l'idée et quel est le véritable sens que nous attachons à ce mot. Et il trouve que l'existence est pour nous l'idée de la permanence de certaines collections de sensations qui, dans des circonstances semblables, réapparaissent constamment les mêmes ou avec des changements assujettis à certaines lois. Quand nous disons qu'un objet existe, nous entendons seulement qu'un système de sensations simultanées ayant été aperçu par nous pendant une certaine durée, ayant disparu plus d'une fois et s'étant représenté encore, nous sommes portés, même lorsque ce système de sensations cesse de s'offrir à nous, à regarder ce même système comme devant se présenter de nouveau de la même manière si nous nous retrouvions dans les mêmes circonstances. Et nous disons alors que cet objet existe. Cette théorie, si neuve qu'à peine fut-elle entendue de quelques philosophes, avait des conséquences importantes. Elle était liée avec la théorie entière de la nature de nos connaissances et de celle de l'espèce de certitude à laquelle nous pouvons atteindre. C'était un grand pas dans la connaissance la plus intime de l'esprit humain et presque le seul qu'on ait fait depuis Locke. Dans ce même article, M. Turgot exposait comment, par l'usage seul de l'organe de la vue, on pourrait parvenir à se faire des notions de l'espace et de la manière dont les corps y peuvent être ordonnés. Idée singulière et juste, par laquelle il rectifiait et perfectionnait encore les recherches de Locke et de ses disciples. L'article « Expansibilité » renfermait une physique nouvelle. M. Turgot y explique en quoi consiste cette propriété qu'ont les fluides d'occuper un espace indéfini en vertu d'une force toujours décroissante et qui cesse d'agir lorsqu'une force opposée fait équilibre à son action. Il apprenait à distinguer l'évaporation des fluides, c'est-à-dire la dissolution de leurs parties dans l'air, d'avec la vaporisation de ces parties lorsqu'elles passent de l'état de liquide à celui de fluide expansible. Il observait qu'à un même degré de chaleur, cette vaporisation avait lieu plus promptement et pour de plus grandes masses, à mesure que ces liquides étaient contenus par une moindre force. En sorte que la vaporisation ne cesse, par exemple, dans un vase fermé et vide d'air, qu'au moment où la force expansive des parties déjà vaporisées est en équilibre avec celle qui produit la vaporisation. L'avantage de pouvoir distiller dans le vide avec une moindre chaleur était une suite de ces principes et on pouvait employer ce moyen, soit pour faire avec économie les distillations en grand, soit pour exécuter des analyses chimiques avec une précision plus grande et de manière à connaître les principes immédiats d'un grand nombre de substances. M. Turgot ne s'occupa que longtemps après de ces conséquences de sa théorie. Mais il est encore le premier qui ait fait des analyses par le moyen de la distillation dans le vide et le premier qui ait proposé d'appliquer cette méthode à la distillation des eaux de vie et à celle de l'eau de mer. Dans l'article Foire, M. Turgot remonte à l'origine de ces établissements. Ils étaient presque nécessaires dans ces siècles où le commerce, étant resserré dans un petit espace que l'ignorance, le brigandage, les longues guerres, la défiance et la haine des différents peuples ne lui permettaient pas de franchir. C'était seulement dans les foires que les nations de l'Europe, les provinces d'un même empire, les cantons d'une même province et jusqu'au village d'un même canton pouvaient échanger leurs productions et soulager mutuellement leurs besoins. À l'abri de la protection momentanée que l'intérêt particulier accordait au lieu destiné pour ces assemblées. Mais de nos jours, ces établissements ont cessé d'être utiles au commerce. Les règlements qui lui fixent, ou un lieu ou un temps déterminé, ceux que ces établissements rendent nécessaires, ceux surtout auxquels ils servent de prétexte, sont autant d'atteintes à la liberté et par conséquent de véritables impôts et de véritables injustices. Ces mêmes établissements seraient encore nuisibles quand ils ne feraient que forcer le commerce à s'écarter de la route naturelle qui l'aurait suivie. L'intérêt général des commerçants et celui des consommateurs saura, bien mieux que le négociant le plus habile ou le législateur le plus éclairé, fixer les lieux, les temps, où ils doivent se rassembler pour leur avantage commun. Dans l'article Fondation, M. Turgot montre que si des particuliers peuvent difficilement former des institutions dont le plan s'accorde avec l'intérêt commun et le système général de l'administration, il est impossible qu'une fondation perpétuelle ne devienne à la longue d'une éternelle inutilité, si même elle ne finit pas par être nuisible. En effet, les changements inévitables dans les mœurs, dans les opinions, dans les lumières, dans l'industrie, dans les besoins des hommes, les changements non moins infaillibles dans l'étendue, la population, les richesses, les travaux d'une ville ou d'un canton, empêcheraient absolument l'homme le plus éclairé de son siècle de former pour le siècle suivant un établissement utile. Combien donc ces abus que l'homme du sens le plus droit, de l'esprit le plus étendu, ne pourrait ni prévoir, ni prévenir, ne sont-ils pas plus dangereux et plus inévitables dans ces fondations qui sont, presque toujours, l'usage de la vanité, d'une bienfaisance aveugle, du caprice, des préjugés et des vues les plus étroites et les plus fausses. Après avoir montré combien les fondations perpétuelles sont dangereuses, M. Turgot prouve que celles qui existent ne doivent être respectées qu'aussi longtemps qu'elles sont utiles, et que l'autorité publique tire de la nature même des choses un droit légitime de les changer. Le droit de propriété d'une terre ou d'une denrée est fondé sur la nature, et la conservation de ce droit est le motif principal de l'établissement de la société. La propriété des fondations, au contraire, et toutes les autres de cette espèce n'existent que par le consentement de l'autorité et le droit de les réformer ou de les détruire lorsqu'elles deviennent inutiles ou dangereuses est une condition nécessaire de ce consentement. L'idée de tout établissement perpétuel renferme nécessairement celle d'un pouvoir qui ait le droit de le changer. Ainsi, la nation seule est le véritable propriétaire des biens qui appartiennent à ses fondations et qui n'ont été donnés que par elle et pour elle. M. Turgot ne développe pas les conséquences de ces principes que tous les bons esprits ne pouvaient manquer d'apercevoir et d'adopter. Il pensait qu'il y avait des circonstances où il fallait laisser au public le soin de l'application. Et il lui suffisait d'avoir posé en peu de mots dans cet article les vrais principes d'après lesquels on doit déterminer, pour un objet si important, la limite encore si peu connue, où finit le droit naturel, où commence celui de l'autorité législative, et indiquer en même temps les règles qui doivent la guider dans l'exercice de ce droit. Ces cinq articles qui appartiennent à des genres différents, dont chacun renferme des vues neuves et importantes, sont les seuls que M. Turgot ait donnés dans l'encyclopédie. Il en avait préparé d'autres, et comme un article de dictionnaire, quelque important qu'il soit, n'exige point qu'on forme un plan étendu, qu'on remonte jusqu'au premier principe, qu'on approfondisse toutes les parties d'un objet, qu'on en examine tous les détails. Cet esprit d'ordre et de combinaison, cet amour pour la perfection, qui a empêché M. Turgot d'achever de grands ouvrages, n'eût servi qu'à rendre meilleurs ces traités détachés qui n'auraient paru élémentaires ou incomplets qu'à lui seul. Mais les persécutions suscitées contre l'encyclopédie empêchèrent M. Turgot de continuer à y travailler. Personne ne le soupçonnera d'avoir abandonné la cause de la raison ou des Lumières par ambition ou par faiblesse. Jamais homme n'a professé plus franchement et plus constamment le mépris pour les préjugés et l'horreur pour les obstacles qu'on essaye d'opposer au progrès de la vérité. Il avait un autre motif. On était parvenu à faire passer l'encyclopédie pour un livre de secte. Et selon lui, c'était en quelque sorte nuire aux vérités qu'on devait chercher à répandre que de les insérer dans un ouvrage frappé de cette accusation, bien ou mal fondée. Il regardait toute secte comme nuisible. En effet, soit que l'ambition de dominer sur les esprits les formait, soit que, comme celle qui a reçu le nom d'encyclopédique, elles doivent son origine à la persécution qui force les hommes à se réunir, du moment qu'une secte existe, tous les individus qui la composent répondent des erreurs et des fautes de chacun d'eux. La nécessité de rester unis oblige de taire ou de dissimuler les vérités qui blesseraient des hommes dont le suffrage ou l'adhésion est utile à la secte. On est obligé de former en quelque sorte un corps de doctrine, et les opinions qui en font partie, adoptées sans examen, deviennent à la longue de véritables préjugés. L'amitié s'arrête sur les individus, mais la haine et l'envie qu'excite chacun d'eux s'étend sur la secte entière. Si cette secte est formée par les hommes les plus éclairés d'une nation, si la défense des vérités les plus importantes au bonheur public est l'objet de son zèle, le mal est plus grand encore. Tout ce qui se propose de vrai et d'utile est rejeté sans examen. Les abus, les erreurs de toute espèce ont pour défenseur ce ramas d'hommes orgueilleux et médiocres, ennemis acharnés de tout ce qui a de l'éclat et de la célébrité. À peine une vérité paraît-elle, que ceux à qui elle serait nuisible la flétrissent du nom d'une secte déjà odieuse et sont sûrs d'empêcher qu'elle ne soit même écoutée. M. Turgot était donc convaincu que le plus grand mal, peut-être qu'on puisse faire à la vérité, c'est de forcer ceux qu'il aime à former une secte et qu'ils ne peuvent commettre une faute plus funeste que d'avoir la vanité ou la faiblesse de donner dans ce piège.